Ce 20 décembre, c'est l'idée que je me suis fait peut-être de vouloir célébrer une princesse, mais pourquoi pas, qui à l'exemple de Jésus-Christ, dans un certain sens, a quitté la cour française. Elle était fille de Louis XV, princesse élevée dans le faste. Et il y a 2 siècles, à la veille de la Révolution française, elle est morte à Saint-Denis. Ça fait partie, au fond, presque de Paris, aujourd'hui Saint-Denis. Mais autrefois, c'était séparé. Hein. C'est là que sont enterrés les rois de France. Elle est morte à Saint-Denis, donc près de Paris, comme carmélite, mais une carmélite pas comme les autres. Hein. Bien oui, fille de Louis XV, princesse élevée dans la richesse et les honneurs, elle a laissé le souvenir d'une véritable sainte. Elle est morte le 23 décembre 1787. Ce sera donc l'anniversaire de son décès samedi, alors je devance de quelques jours. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Donc c'est une rencontre spirituelle avec une femme exceptionnelle, Madame Louise, une princesse au Carmel. Je m'inspire de l'ouvrage de Bernard Ours, H-O-U-R-S, qui a publié en 1987 aux éditions du Cerf, Madame Louise, une princesse au Carmel, ouvrage couronné par l'Académie française. En somme, naître à la cour la plus prestigieuse d'Europe au siècle de ce qu'on appelle la douceur de vivre, et en arriver à mourir sous l'habit, le costume d'une carmélite, dans le plus complet dénuement. C'était très strict à l'époque. Mais tel a été le destin, vraiment hors du commun, mais très discret, de Louise de France, dernière fille de Louis XV, et de Marie Leczinska, qui est venue au monde le 15 juillet 1737. Elle est donc morte à 50 ans. Son père, Louis XV, était surnommé le bien-aimé, comme on sait. Il était l'arrière-petit-fils de Louis XIV. On l'accuse souvent, on dit que c'est lui qui nous a abandonnés en 1763. Mais il faudrait que je vous lise dans le siècle de Louis XV de Pierre Gaxot, que je retrouvais dans ma bibliothèque, le chapitre 8. Le chapitre 8 s'intitule, dans cet ouvrage, « Le siècle de Louis XV » de Pierre Gaxot, grand historien français, « La France peut être heureuse sans Québec. » C'est que c'était l'époque où ont surgi les Montesquieu, les Rousseau, Voltaire, Diderot, Condillac, etc., qui formaient une espèce de... je dirais de secte, en somme, on les appelle les philosophes. Hein? Et s'il y a un point sur lequel ils se sont trouvés d'accord, et ils ne varient absolument pas là-dessus, c'est l'inutilité, le danger, disent-ils, des colonies. Le Canada, dit Pierre Gaxot, est la bête noire de la secte. En tout et pour tout, l'encyclopédie, comme on dit souvent en parlant d'eux, l'encyclopédie lui consacre 12 lignes insignifiantes. L'encyclopédie, c'est ce qu'ils ont publié, n'est-ce pas? Contre lui, Voltaire a rendu son oracle, dit-il. Dans l'essai sur les mœurs, le précis du siècle de Louis XV, Candide, puis les fragments sur l'Inde, puis la correspondance, il y revient 100 fois à grands coups d'expression méprisante. Il parle d'arpents de neige, désert glacé, terre insauvage, terre stérile, etc. Je vous fais grâce de toutes les attaques qui nous sont venues de ce côté-là, à l'encontre, chose étrange, des chrétiens ardents qui sont venus fonder notre pays, qui l'ont colonisé, qui sont venus ici s'établir, et on sait, on connaît l'histoire de notre pays, j'espère, du Québec en particulier, où l'on voit combien la plupart des Français qui sont venus s'établir ici étaient des chrétiens convaincus, très loin des idées de l'encyclopédie et très loin de Voltaire. Comme l'étaient d'ailleurs la princesse Louise, Madame Louise. Officiellement, Madame Louise n'est pas sainte. En 1873, pourtant, Pie IX avait signé le décret d'introduction de sa cause. Mais au début de ce siècle, le procès a été abandonné. On peut dire qu'il a été doublé par celui très intense de la petite Thérèse de Lisieux. Et pourtant, la piété, la mémoire que les carmélites portent à l'égard de la princesse Louise ont vraiment déjà permis d'apprécier cette princesse, qui en religion s'appelait Mère Thérèse de Saint-Augustin. Je pense que les carmélites n'attendent au fond que l'autorisation de l'honorer en toute quiétude. Mais qu'est-ce que les carmélites admirent surtout chez elle? Et qu'est-ce que ceux qui l'ont connue, particulièrement en lisant le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, Madame Louise, une princesse au Carmel, paru aux éditions du Cerf en 87, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve quelque chose de merveilleux. C'est que la vocation de Madame Louise, qui est entrée à 31 ans, puisait sa force d'abord, chose qui peut surprendre, dans son environnement familial. Parce que la famille royale vivait sans véritable intimité, mais dans une réelle union. Sans intimité parce que l'étiquette l'interdisait. Ainsi, la reine Marie Leczinska, fille du roi de Pologne, Stanislas, qui a été détrôné, bien alors même que ses enfants étaient encore des nourrissons, mais elle ne pouvait les voir que 3 fois par jour. Et pour les petites dernières, ils ont eu beaucoup d'enfants, Louis XV et sa femme, les petites dernières qui s'appelaient Victoire, Thérèse Félicité, Sophie et Louise, mais la coupure a été encore bien plus radicale. Imaginez ce qu'on a fait avec elle dès le mois de juin 1738. N'oubliez pas que Louise est née le 15 juillet 1737, donc onze mois plus tard, mais toutes les quatre, elles furent envoyées chez les bénédictines de Fontevraud, la fameuse abbaye de Fontevraud. Louise, je vous le rappelle, n'avait que 11 mois. Elles y sont restées 12 ans, sans jamais voir leurs parents. C'est incroyable quand on y pense, mais c'est les coutumes du temps. Vous savez que la famille nouée comme on la connaît est quelque chose qui a pris du temps à l'Église à établir. Et ce n'est qu'au siècle dernier surtout que la famille s'est vraiment formée autour du père et de la mère. L'intimité entre les parents et les enfants n'était pas de mise à cette époque. Et a fortiori d'ailleurs dans la famille royale. Alors c'est pas sûr que les enfants aient vraiment souffert de cette séparation, puisque c'était la coutume. À leur retour, ces quatre jeunes filles, en octobre 1750, Louise avait alors 13 ans, le roi, Louis XV, devant tout le monde, a pleuré en les embrassant. Comme un bon père de famille, un bon bourgeois de Paris, tout simplement, disait-il lui-même. Et à cette date, la marquise de Pompadour, qui était la maîtresse de Louis XV, régnait encore sur le cœur et sur l'esprit de ce monarque absolu. Et d'emblée, la jeune fille, Madame Louise, a été confrontée à cette désunion de ses parents, son père et sa mère. Mais elle n'a pas pris parti, car le sentiment qu'elle portait à son père était instinctif, elle vénérait son père. Selon le commandement de Dieu, elle était de formation profondément chrétienne, ayant été éduquée chez des bénédictines, même si parmi ces bénédictines, il y avait là des vocations plus ou moins forcées qui venaient de familles nobles. Et alors, chevillée au plus profond d'elle-même, son sentiment de respect pour son père a toujours permis une relation profonde entre les deux. Pour sa mère, son amour était plus réfléchi. Son amour pour sa mère était fondé sur une espèce de communion de cœur et de tête avec cette Polonaise. Mais c'était aussi fort, c'était autre chose. Les princesses, d'ailleurs, voyaient peu la reine. Le plus souvent, après le souper, quand toute la cour se mettait à des tables pour jouer. Hein, quand on visite le château de Versailles ou ces châteaux-là, on voit qu'il y a des grandes salles où la cour s'assemblait sur de magnifiques fauteuils avec des tables pour jouer à toutes sortes de jeux qui sont plus ou moins disparus aujourd'hui. Et en revanche, bien, les jeunes filles se réunissaient plus aisément entre elles, leur appartement communiquait, puis elles prenaient leur repas en commun, et surtout, elles pratiquaient ensemble certaines de leurs dévotions, car elles avaient, je vous le rappelle, été formées dans une abbaye bénédictine, et de plus, Louise et Sophie partageaient la même bibliothèque dont les livres étaient reliés en jaune. On peut les voir, d'ailleurs, dans le palais. Et c'est un très beau jaune, d'ailleurs. Et le dauphin Louis, car il y avait un jeune qui mourra trop jeune, d'ailleurs, le dauphin Louis, qui jouissait auprès de ses sœurs d'une estime sans limite, les conseillait dans leurs lectures et leurs travaux. Car lui-même, ce dauphin, qui était celui qui pouvait succéder à son père comme roi, mais qui ne l'a pas fait, il est mort avant son père, était une sorte de saint, lui aussi, à cause de la formation qu'il avait reçue. Les princesses, d'ailleurs, voyaient en lui l'idéal du prince chrétien. Car Louis était, le dauphin, était dévoué, d'abord à la compagnie de Jésus, qui était très discutée à l'époque, mais où il sentait que c'était là qu'était la véritable doctrine, plus libre que celle des jansénistes et plus authentique dans l'amour de Dieu. Il était adepte, d'ailleurs, convaincu du culte du Sacré-Cœur, donc de l'amour que Jésus nous porte à chacun d'entre nous. Ce jeune prince ne prisait, d'ailleurs, ni la chasse. Il n'aimait pas les bals, ni les spectacles. D'ailleurs, il s'opposait secrètement, parmi certains confidents, à l'argent dépensé dans ses spectacles et ses bals alors qu'il y avait tant de pauvres. Et c'est pour ça qu'il menait une vie plutôt bourgeoise auprès de sa femme, qui lui assurait consciencieusement une abondante descendance lui-même. Il a eu de nombreux enfants. Il est mort trop tôt, le 20 décembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui de son décès, par hasard. En 1765, il y a donc 230 ans, et il a emporté dans sa tombe tous les espoirs qu'on fondait sur lui pour avoir en France un saint roi. L'étiquette, les coutumes exigeaient que mesdames, comme on les appelait, les princesses, prennent part à la fête de Versailles qui était grandiose, et aussi Louise, dont il est question aujourd'hui, en venait à regretter les journées paisibles de Fontevraud, cette abbaye bénédictine. Elle écrit d'ailleurs, « Je sentais que j'avais besoin de repos, mais l'heure du jeu était venue. J'allais au jeu par complaisance. Suivais l'heure du spectacle. Oh, la complaisance m'y conduisait encore, et je m'y endormais de lassitude. Ce train de vie si opposé à la vie que je menais au couvent me fatiguait beaucoup. » Et m'échauffait le sang. C'est une expression typique de l'époque et je la trouve assez bonne. Parce que c'est vrai que c'est le sentiment qu'on a, hein, qu'on a le sang échauffé par toutes ces choses inutiles. Alors, malgré les ruptures qui étaient apportées à son intimité, bien, la famille royale vivait dans une sorte de communion. Quelle sorte de communion? Une communion d'abord et avant tout à la même conviction qu'il n'était prince et princesse que pour défendre et propager la religion. Ça peut sembler curieux, mais ces familles-là, où régnait l'adultère chez le père, a été de formation profondément chrétienne, et même Louis XV avait une formation profondément chrétienne malgré ses adultères. Et qui ne connaît pas autour de soi, aujourd'hui même, où les difficultés matrimoniales sont si répandues, des gens profondément croyants qui vivent un second mariage et même parfois un troisième et qui sont profondément chrétiens. Il ne faut donc pas juger, laisser à Dieu de juger. Et je ne dis pas qu'il faille enfreindre les lois de l'Église, je suis très loin de dire ça. Mais je crois qu'il faut avoir un cœur comme chrétien. Et savoir ne pas juger. Et ainsi, on n'a pas à juger cette famille où tous ces princes et princesses désiraient défendre et propager la religion, comme je viens de vous dire. Leur modèle, c'était d'ailleurs leur ancêtre, Saint Louis. Louise, elle, se rendait bien compte que son père, Louis XV, du moins par sa vie privée, ne répondait pas à cette vocation de la famille royale. Et peu à peu, elle a conçu le projet de prendre le voile. Pourquoi? Elle le disait d'ailleurs un peu, pour le salut de son père, pour sauver son âme. Elle écrivait « Verra-t-il ma résolution sans être touché de Dieu et sans retourner entièrement à lui? » Alors, pas plus qu'on ne pourrait résumer la vocation de cette princesse à la seule idée de revivre les années qu'elle avait vécues à l'abbaye de Fontevraud dans son enfance. Pas plus qu'on pourrait résumer sa vocation non plus, ou la réduire à ce motif de vouloir convertir son père. Il l'apparaît d'ailleurs dans ses propos qu'en 1768, à 31 ans, au début de la liaison de son père avec Jeanne du Barry, la plus scandaleuse des maîtresses de ce roi. C'est à ce moment-là qu'elle veut convertir son père, mais elle dit ça comme quelque chose d'accessoire. Au fond, sa vocation est véritable. Revenu à Versailles, au grand château de Versailles, ceux qui sont allés au château de Versailles et qui m'écoutaient, vous vous imaginez dans quel luxe cette princesse vivait. C'est fabuleux. Fabuleux. Alors, revenue à Versailles, Madame Louise avait conservé certaines habitudes de l'abbaye de Fontevraud. Par exemple, la récitation de ce qu'on appelle l'office canonial, l'office que les moniales récitent dans les monastères, qui est le bréviaire, comme on l'appelait autrefois, l'office des heures, comme on peut le réciter aujourd'hui. Je suis allé hier après-midi à 5 heures, à l'église des Pères du Très-Saint-Sacrement, réciter les vêpres. C'était très beau d'ailleurs, très simple. Et très tôt, peut-être dès 1751, à 14 ans d'ailleurs, on voit que chez elle, la princesse Louise, elle entreprend de prier en écrivant ses pensées sur des feuillets épars. Ils ont été réunis après sa mort. Ils ont été publiés en 1789 par l'abbé Guillon sous le titre de « Méditation eucharistique ». Au cépage, sans relever d'une spiritualité bien originale, elle était jeune, mais ces pages témoignent quand même d'un amour ardent et sincère pour Jésus. Ces pages révèlent le cheminement d'une jeune vocation qui devait naturellement déboucher sur le désir de la vie contemplative, à l'abri du cloître, comme c'était à l'époque, car pour les femmes, il n'y avait guère que le cloître. Les communautés actives, comme celle de Sainte-Marguerite Bourgeois, fondée au siècle précédent, étaient extrêmement rares. D'ailleurs, l'appel qu'elle avait ressenti dans son cœur, elle l'avait senti très tôt. Le 7 octobre 1751, ce jour-là, la reine Marie Leczinska avait mené ses filles à la prise d'habit de la comtesse de Rupelmonde. La prise d'habit, c'est le jour où une laïque entre dans un cloître ou dans un monastère et se et revêtu officiellement devant tout le monde de l'habit des religieux ou des religieuses. J'ai déjà reçu l'habit comme ça chez les bénédictins. Je sais combien c'est un jour important, où on a l'impression vraiment de se dépouiller du monde et d'adhérer à l'Évangile encore plus vigoureusement. Alors ils sont allés voir ça, toutes les cinq ensemble, la reine et ses quatre filles. La comtesse de Rupelmonde qui prenait l'habit était une jeune veuve dont la vie venait d'être brisée par une série de deuils rapprochés. Et Louise n'avait que 14 ans, mais il lui faudrait attendre 20 ans avant de prendre l'habit. La princesse, en effet, ne jouissait pas d'une très forte constitution. Ouais, elle n'était pas malade, mais elle était plutôt un peu faible. Depuis, il y avait eu des deuils répétés dans sa famille qui l'avaient affectée. Ça l'a retenue à la cour, tous ces deuils. Henriette, la princesse Henriette, qui est morte en 1752... Donc, elle avait 15 ans, Élisabeth en 1759, le duc de Bourgogne en 1761, le dauphin dont je vous ai parlé tout à l'heure, puis sa femme en 1765 et 66, c'est son frère, sa belle-sœur, la reine, enfin sa mère, qui est morte en 1768. En somme, on dirait que Dieu tranchait les liens qu'elle n'avait pu brisée elle-même pour entrer au cloître. Mais là, rien ne pourrait plus la retenir. Alors pourquoi le 11 avril 1770, cette princesse à 32 ans, au petit matin, entre-t-elle, précisément, dans le Carmel de Saint-Denis? Louis XV lui avait interdit le Carmel de Compiègne, trop proche d'une résidence habituelle de la cour, hein, le fameux château de Compiègne, là. Et pour la même raison, elle avait écarté les Carmels parisiens. Et l'abbé Bertin, frère du contrôleur général et supérieur du Carmel de Saint-Denis, lui avait recommandé cette communauté. Pourquoi? Parce qu'elle était pauvre. Elle était aussi menacée de dispersion. Et c'est là que Louise va y prononcer ses premiers vœux, le 12 septembre 1771, l'année après son entrée, sous le nom de sœur Thérèse de Saint-Augustin, et de toutes ses forces, elle s'appliquait à faire disparaître Madame Louise derrière le grand voile noir des Carmélites. Et elle dut accepter, cependant, au début, quelques adoucissements à la règle à cause de sa santé. Et son orgueil en a souffert, mais la prière s'est montrée inflexible et la véritable humilité devait lui apprendre, à Madame Louise, à être traitée pour ce qu'elle était, une princesse au Carmel. Que Madame Louise, princesse, fille de Louis XV, devenue carmélite, comme on vient de l'entendre. Et par la suite, après son entrée, sa prise du costume, prise de nom de carmélite aussi, eh bien, sa vie quotidienne ne fut pas moins marquée, évidemment, par la cèse et la prière que celle des autres carmélites. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait dans le Carmel? Ben, elle s'est occupée des mêmes choses. Elle a habité une cellule, elle a partagé les mêmes repas, elle s'est soumise aux mêmes devoirs d'obéissance, aux mêmes pénitences. Elle a participé aux mêmes réjouissances, parce qu'il y a toujours des réjouissances dans les Carmels. Hein? Bon, je vais vous faire une confidence. Je peux vous dire que pendant les 2 années que j'ai vécu au noviciat de Saint-Benoît-du-Lac, je n'ai jamais tant ri. Je n'ai jamais tant ri, je me suis jamais tant amusé, mais seulement pendant les récréations. Soyez sans crainte. Il y a une joie à nul autre pareil dans les cloîtres, je pense, quand on est heureux là-dedans. Il faut être appelé, je pense. Et alors, elle ne fut jamais une carmélite tout à fait comme les autres quand même, hein? Car à peine revêtue du voile noir, cette princesse fut désignée maîtresse des novices, très rapidement, hein? En 1773... La communauté l'a élue prieure. C'est à peine après deux ans de vie monastique, mais il faut dire qu'elle avait 33 ans. Hein. Et elle avait une expérience, car comme princesse, elle avait quand même eu des responsabilités. Elle a été élue à l'unanimité. Bon, On peut dire que c'est par respect pour la royauté, mais on leur conduit dans ces fonctions en 1776 et en 1779, on l'a retrouvé au novice, elle retrouve le noviciat, puis elle cumule tout ça avec sa charge d'économe, comme on dit dans les Carmels, de dépositaire. Elle est réélue prieure en 1785, elle garde le noviciat. Il est fort probable qu'elle eût été gardée plus longtemps, et même une nouvelle fois, si elle n'était morte le 23 décembre 1787 à 50 ans. Mais aurait-elle joué un rôle aussi important à Saint-Denis si elle n'avait pas été Madame Louise, on peut se le demander. Elle l'écrit d'ailleurs, « Je voudrais n'avoir jamais été fille de roi. Je n'aurais pas de chagrin d'être prieure. » Car c'est bien Madame Louise qu'on a élue, et non pas sœur Thérèse de Saint-Augustin, n'en déplaise aux consciences de mes chères sœurs. Elle écrit ça, mais c'est pas tout à fait juste, paraît-il. Mère de Saint-Alexis, elles avaient des noms comme ça, les religieuses, hein? Mère de Saint-Alexis, bon, la prieure, est-ce que s'est trompée en la nommant au noviciat, puis est-ce que la communauté s'est trompée en l'élisant? Il faut bien savoir que cette femme qui était entrée à Saint-Denis en 1770 était dans sa 33e année. Depuis 20 ans, elle mûrissait sa vocation, et spirituellement, elle n'était plus une novice. Elle arrivait comme une femme d'âge mûr, quoi. Et certains sont choqués parce qu'elle devenait carmélite. En devenant carmélite, là, elle n'a pas renoncé complètement à l'influence de son rang de princesse, mais cette réaction est absolument anachronique. C'est des gens qui jugent sans comprendre l'époque. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, les princesses et les rois, c'était quelque chose d'absolument fantastique. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'en moque éperdument, sauf quelques rares personnes. Hein. On dit ça dans les revues, on regarde ça à la télévision, mais ça ne nous impressionne pas. Hein. Quand on voit le château en Angleterre qui brûle, on voit le prince Andrew qui se promène dehors avec les pompiers. On dit qui est ce bonhomme, c'est un prince, et puis ça ne nous impressionne pas du tout. C'est vrai que la princesse aurait aimé renoncer à toutes ses prérogatives. Elle le dit d'ailleurs, « J'ai renoncé à tout, même à faire du bien aux autres. C'est là la plus grande pauvreté que puisse pratiquer la fille d'un roi. » Cela n'empêche pas les plachettes, comme on dit, d'affluer à Saint-Denis, c'est-à-dire toutes ces demandes. Hein, des plachettes, c'est des lettres de demande, sont adressées à une personnalité dont on attend qu'elle accorde une faveur. Alors, elle en reçoit continuellement. On l'a sollicité pour tout. Pourquoi, exemple, un régiment qui demandait des faveurs, une place auprès de la reine. D'autres demandaient un évêché. Oui, oui, des gens qui demandent un évêché, c'est absolument insensé. Hein? D'autres demandaient une cure. À ces demandes. Mais il est vrai qu'ici, les devoirs de la charité et de ce qu'on appelle l'évangélisme. L'évangétisme, c'est une chose un peu particulière. C'est l'attitude qu'avaient les gouvernants à cette époque qui consiste à distribuer largement des équipements, des édifices. Aujourd'hui, c'est un crime. Et quelqu'un peut être même jeté en prison pour ça. Mais à cette époque, c'était considéré comme des gestes de charité qui venaient de personnes qui étaient là en pouvoir grâce à Dieu. C'était, on appelait ça l'évergétisme princier. Alors, les carmélites elles-mêmes n'y ont vu que des gestes de charité que leurs prieurs faisaient dans toutes ces choses-là. C'est une toute autre conception. De toute façon, le Carmel de Saint-Denis est devenu un lieu illustre à cause de sa présence et à l'horizon de l'ordre du Carmel, tout d'abord. Hein. Partout dans tous les Carmels, le Carmel Saint-Denis était devenu quelque chose d'extraordinaire. Et souvent, les religieuses étaient transférées d'une communauté à l'autre, hein, à cause des guerres, à cause de difficultés ou d'épidémies. Alors, ils y transitaient parce que Mère Thérèse de Saint-Augustin, Madame Louise, désirait faire leur connaissance. Et combien de Carmels ont sollicité la princesse pour un procès, une affaire de dette, ou même pour soustraire une novice à l'emprise de sa famille qui était hostile à sa vocation. Et Madame Louise nourrissait aussi une ambition plus grande, elle. C'était d'aider à la réforme du Carmel français. dans l'esprit de Sainte Thérèse d'Avila. Et dans cet esprit, elle a soutenu, malgré de nombreuses oppositions, la fondation d'une nouvelle communauté à Alençon de 1778 à 1780. Elle y a travaillé d'arrache-pied. Elle est intervenue auprès du pape même et du roi pour encourager la réforme du Carmel masculin de Charenton en 1772. Elle s'occupait des Carmels d'hommes aussi. C'était une espèce de Thérèse d'Avila dans un sens. Et de même, ne pouvant supporter l'idée d'une sécularisation des religieuses, qui se paierait par dans les régions où les protestants occupaient le territoire, elle a mis tout en œuvre pour faire accueillir par les communautés françaises les carmélites des Pays-Bas autrichiens qui étaient passés au protestantisme. Après l'édit publié en novembre 1781 par l'empereur Joseph II, ça a été pénible, c'est l'empereur germanique Joseph II, qui est mort en 1690, et à partir de la mort de la mère, de sa mère, Marie-Thérèse, mais cet empereur s'est posé en réformateur protestant. Et notamment, il a lutté contre l'influence du pape dans ses états. Il a favorisé les protestants. Et alors, il chassait les carmélites. Alors, les carmélites n'avaient d'autres ressources que l'exil, si elles voulaient continuer à vivre selon leurs vœux. Enfin, même discrète, là, la place tenue par Madame Louise dans les problèmes religieux de son époque n'a pas été négligeable, ni sans intérêt. Dans l'ombre, elle a pris part aux luttes de ce qu'on appelle le Parti dévot. Le Parti dévot, c'était un parti catholique qui luttait contre les jansénistes. C'est assez complexe, ça s'appelait comme ça, le Parti dévot, c'est l'ensemble des catholiques de France qui ont poursuivi une politique qui se traduisait par une lutte vigoureuse contre le protestantisme d'une part, et tout ce qui, à leurs yeux, risquait de nuire à la religion, et en particulier le jansénisme. Alors, c'est un peu surprenant, mais il faut comprendre l'époque. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer ces choses-là, mais en tous les cas, elle a lutté surtout contre les jansénistes, appuyant les jésuites. Elle a lutté aussi contre les philosophes dont je vous ai parlé au début, ceux qui ont entraîné le roi à abandonner le Canada, le Québec, toute cette Amérique française. Donc, elle a lutté contre les philosophes qui étaient des incroyants. Elle a lutté aussi contre les partisans d'un compromis avec le monde, avec le siècle, comme on dit. Elle n'a rien pu faire contre l'interdiction de la Compagnie de Jésus en France en 1764. Elle aurait voulu sauver les jésuites. Et il y a eu l'extinction générale, d'ailleurs, des jésuites, hein, par le bref Dominus Ac Redemptor en 1773. Les jésuites sont complètement disparus. Ne sont revenus que le siècle suivant, au 19e siècle. D'ailleurs, plusieurs ex-jésuites ont trouvé refuge dans son monastère de Saint-Denis. Ou ailleurs, grâce à sa protection, d'ailleurs. Et lorsque Monseigneur de Beaumont a tenté avec ses amis de reconstituer une congrégation à l'échelle nationale, une congrégation jésuite, il semble bien en avoir conféré avec la princesse. Alors, elle avait été élevée dans le deuxième quart du siècle où la querelle janséniste avait provoqué des sortes d'orages et Madame Louise n'était pas disposée au compromis à ce propos. Elle n'était pas du côté de Pascal qui lui endossait, n'est-ce pas, les jansénistes plus ou moins. On la vit soutenir une supérieure qui refusait les sacrements à une vieille religieuse impénitente janséniste. Mais surtout, faire rechercher les anciennes carmélites jansénistes de Saint-Denis, qui en 1745 avaient préféré s'enfuir plutôt que de se soumettre à la condamnation des propositions jansénistes de Quenelle. Elle voulait les ravoir. Elle n'en ramena qu'une seule au bercail. Et tendrement, elle a obtenu d'elle qu'elle abjure les erreurs jansénistes. Dans une déclaration préparée par le chapelain du couvent, l'abbé May, un ancien jésuite. Au fur et à mesure que le siècle avançait, bien Madame Louise était de plus en plus convaincue que l'Église catholique était devenue une citadelle assiégée et qu'il fallait défendre par tous les moyens, y compris sur le terrain intellectuel. C'était une femme de tête. Elle voyait avec horreur l'idée de tolérance, chose étrange, s'infiltrer parmi les catholiques. Qu'est-ce que cette idée de tolérance? C'est cette idée qui règne, heureusement dans l'Église, particulièrement depuis le dernier concile, que cet esprit d'amour, d'affection et de tendresse à l'égard de ceux qui ne pensent pas comme nous, catholiques. Et en cela, elle est bien étrangère à la mentalité du XXe siècle. Madame Louise relève de son siècle, puisque, comme je viens de vous le dire, depuis Vatican II, la liberté religieuse est reconnue, proclamée par l'Église catholique. L'édit de novembre 1787, qui, entre autres, accordait l'état civil aux protestants, l'avait bouleversée. Elle avait écrit « Les nouvelles qu'on m'a apprises de la révocation m'ont fait une peine dont je ne suis pas la maîtresse. » Quelle étrange opposition il y avait. Il faut dire qu'il y avait eu des guerres terribles entre catholiques et protestants. Et les protestants avaient détruit tellement de cloîtres et d'églises catholiques, saccagé les statues, ruiné les reliques précieuses, les reliquaires. Ça avait été épouvantable. Quelle époque, quelle triste époque quand on y pense. Nous qui sommes frères, protestants et catholiques, qui recherchons au fond le même but, vivre l'Évangile. Moi, quand je lis ces moments de l'histoire, je trouve ça pénible. Et que cette Madame Louise ait sombré dans cette chose-là, elle était de son temps. Il faut pas lui en vouloir, il faut comprendre. Avec elle, l'immense majorité de l'Église de France était atterrée, d'ailleurs, de la révocation et du rétablissement des protestants. L'année suivante, l'année après 1787, le clergé devait abonder en doléances à ce propos d'ailleurs. Et la princesse ne devait pas le savoir. Elle est morte l'avant-veille de la Noël 1787. Elle est morte le 23 décembre 1787. Et voilà donc comment nous apparaît aujourd'hui Madame Louise, à travers quelques centaines de lettres, à travers ses méditations et quelques témoignages. C'est une femme énergique et entière, une femme admirable, sincère et généreuse, une personnalité qui continue à émouvoir aujourd'hui, même si l'on peut éprouver quelques réticences à l'égard de certaines prises de position comme je viens de le faire. Il faut jamais oublier que les saints, et ça c'est très important, je voudrais que vous reteniez ça aujourd'hui, les saints furent d'abord des femmes et des hommes de leur temps. Je répète, les saints furent d'abord des femmes et des hommes de leur temps. On peut pas les juger avec les yeux de gens qui vivent dans un siècle où il y a toutes sortes de progrès qui sont faits pour reconnaître l'égalité de tous les hommes, la liberté de penser, etc. Ce n'était pas comme ça autrefois. C'est toujours anachronique de vouloir rechercher la modernité chez nos ancêtres, hein? Car quand on prend Madame Louise, là, puis on la replace dans le contexte de son époque, en dehors même de sa personnalité, elle est un cas très, très intéressant. Quand on fait l'histoire de Madame Louise, on la voit comme représentative d'un milieu, qui est celui du parti dévot dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un parti qui a combattu les Lumières et leur philosophie de tolérance, qui a défendu les prérogatives de la papauté dans l'Église et les prérogatives de l'Église dans la société, et qui a maintenu fermement les condamnations contre les chrétiens rebelles à Rome. C'est toutes des choses qui nous gênent un peu. Mais il faut comprendre, et à long terme, ce parti dévot a certes perdu son combat, c'est clair. Mais nous, aujourd'hui, nous ne devons pas oublier qu'il y a deux siècles, ce parti représentait la majorité, même de gens très brillants et très intelligents. Et il me semble que l'on comprendrait mal la violence des conflits religieux pendant les révolutions si ce parti avait alors été sur son déclin. C'est au contraire parce que sa vitalité était grande que le choc a été sanglant. Et c'est une vitalité dont témoigne Madame Louise. Madame Louise, qui n'est peut-être pas une sainte comme on la souhaiterait, mais qui, à mon avis, une sainte religieuse, une carmélite admirable. Pour terminer, j'aimerais vous lire un texte d'esprit carmélitain qui commence avec Léon Blois. C'est Léon Blois qui parle et dit « J'en suis arrivé à la certitude parfaite qu'une catastrophe advenant, la seule chose à faire, c'est de chanter le Magnificat. » Ainsi s'exprimait Léon Blois, que la vie avait abreuvé copieusement d'épreuves. Hein? Et parce qu'il était mystique, il ne pouvait, sans même le savoir, au diapason du docteur mystique, Saint Jean de la Croix composa le sublime poème de la nuit obscure, image peut-être de son cachot d'infamie. Et ce chant est un exultète, c'est-à-dire c'est un chant d'acclamation de l'exultète de la liturgie de Pâques. Il emprunte l'ordre des phrases et les mots. Mais plus qu'une belle paraphrase, il fait sur ce mode sa confession de foi, d'amour et surtout d'espérance en chantant. Mais espérance de quoi? De qui? De Dieu, bien sûr. Mais en attendant, dans cette vie terrestre, comment? Qu'espère en espérant l'épouse anxieuse de voir l'époux aimé? Cette épouse, c'est l'âme, et c'est aussi l'Église. Et pour l'Église, ne peut-on, ne doit-on pas souhaiter toujours plus qu'apparaisse visiblement sa ressemblance avec ce qu'elle est dans le dessein de Dieu, étant issue, toute pure, du côté transpercé du nouvel Adam qu'est Jésus. Et pour notre saint, cela se passait-il, ne passait-il pas par le triomphe de la réforme de son ordre? Et c'est là qu'on voit que l'espérance qui a fait que les ordres se sont réformés, l'espérance qui habitait Madame Louise pour réformer le Carmel, l'espérance qui habite tous ceux qui veulent réformer ce qui sombre, c'est une espérance qui est fondée en Jésus-Christ. Étrange, folle espérance en vérité que celle des saints. Ils n'espèrent pas des lendemains qui chantent, ils chantent maintenant. Ils sont plongés dans la nuit sans étoiles, ils la trouvent plus aimable que l'aurore s'éveillant, où l'âme épouse verra, non plus comme à travers le voile d'un trouble miroir, mais face à face, le visage adoré de Dieu, plus souhaitable que la béatitude. Car la disposition que Dieu donna à Job pour lui parler ne fut pas ses délices et ses gloires coutumières de leur rapport, mais de le mettre sur un fumier tout nu, abandonné et même persécuté par ses amis, comblé d'angoisse et d'amertume, le pavé parsemé de vers. Et alors le Dieu très haut, qui relève le pauvre du fumier, fit gloire de descendre et de lui parler face à face, lui découvrant les hauteurs profondes de sa sagesse, ce qu'il n'avait jamais fait autant de sa prospérité. Et c'est ce qui arrive ces jours-ci quand nous célébrerons cette aventure extraordinaire de Dieu qui naît dans une mangeoire et qui remplit d'espérance. Le Christ est plein de cette espérance comme homme de transformer le monde et de lui apprendre ce que jamais le monde n'arrive vraiment à comprendre. Que son Père est tout amour. Que son Père ne veut que transformer, réformer le monde. Son Père souhaite vraiment que le monde apprenne ce que c'est que d'aimer. Quand il n'y a plus rien à savourer, le savant de la croix savoure encore et surtout cela, l'absence de saveur. La hargne haineuse des pauvres hommes, l'apparent abandon de Dieu sont du bois sec pour l'ardeur qui l'anime. Savoureusement, sans prix, jaloux, puisqu'il est une adhésion nue par pur amour au Dieu d'amour. Sur ces sommets où l'âme a franchi les citadelles de l'amour propre, de tout atavisme trop humain, de quoi se plaindrait-elle? Sur quoi gémirait-elle des choses ici-bas? Puisqu'elle a eu à gémir sous la main délicate de celui qui, le premier, a daigné venir à elle et l'a blessée de son amour consumant. Et c'est Jésus qui vient à nous pour nous brûler d'un amour consumant. Il a brûlé Madame Louise pour en faire une carmélite. Il brûle les saints pour les transformer. Et les profondeurs obscures de l'humanité n'ont pas à s'appesantir sur elles-mêmes. Quand par sa fine pointe, sur les hauteurs lumineuses ou par la foi, Dieu l'attire, l'âme expérimente alors vraiment la coïncidence de Dieu avec l'humanité dans son incarnation. Il y a cette coïncidence de Dieu en Jésus-Christ dans l'incarnation, qui est une coïncidence qui doit nous rappeler que cette coïncidence doit s'opérer aussi en nous et que Dieu doit prendre toute la place dans notre cœur si nous voulons fêter Noël. Noël ne se fête pas simplement en riant, en jouissant, en nous amusant. C'est bien de se réjouir. Mais sachons pourquoi nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons parce que la grande nouvelle qui nous est annoncée, c'est celle qui a réjoui le cœur de Madame Louise. C'est celle qui a réjoui le cœur des saints. Et quelle est cette nouvelle? C'est que Dieu se donne à nous, entièrement, totalement, afin de naître en nous et de grandir en nous, et de nous transformer pour nous faire voir toutes les choses d'un nouveau regard. D'un nouveau regard, qui a été chanté d'ailleurs dans cette émission, dans ce beau chant de l'Ave Verum. Ave Verum Corpus. Salut, vrai corps du Christ. Salut, vrai corps du Christ qui nous nourrit dans l'Eucharistie. Salut, vrai corps du Christ incarné, né de la Vierge Marie, qui parlera et qui nous enseignera et qui nous dira quoi faire pour être heureux. C'est ça, Noël. C'est le premier pas qui est fait vers la croix, mais aussi vers la résurrection, vers l'ascension. Et c'est cette ascension qu'a obtenue dans sa vie des gens comme Madame Louise.